Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin, au micro de Chrétien d'Orient sur France Culture, je suis en compagnie d'Alain Desrumaux, un habitué de notre émission, un éminent syriacisant, et nous allons évoquer ensemble la question de l'épigraphie syriaque, et plus particulièrement de la géographie du massif calcaire. Alors nous sommes en Syrie du Nord, dans une région que nous connaissons hélas par l'actualité, la région d'Iblid. Nous ne pouvons plus maintenant ignorer cette province, une région où vous êtes allé plusieurs fois en mission à la toute fin des années 2006, 2007, 2008, 2009, chaque année en coopération avec des équipes syriennes pour glaner, chercher ces inscriptions syriaques gravées sur les pierres de ces églises extraordinaires du 4e, du 5e siècle, 6e siècle. Donc nous nous sommes posé la question avec Widad Khoury, que nous avions reçu l'année dernière, de savoir ce qu'il pouvait en rester. Alors les nouvelles étaient plutôt encourageantes, mais j'aimerais maintenant, monsieur Desrumaux, alors avoir votre point de vue sur ces échos que vous avez pu avoir et notamment sur les personnes avec lesquelles vous avez travaillé à ces époques.
Oui, merci Sébastien de me donner l'occasion ici, si vous le permettez, d'abord de commencer par un hommage, je dirais un hommage ému aux gens d'Idlib, parmi lesquels nous avons fait nos missions. Je dis tout de suite, vous avez parlé de Widad Khoury. Widad Khoury était la responsable, elle est toujours d'ailleurs, la responsable syrienne de la mission franco-syrienne qui est dirigée du côté français par Françoise Briquel-Châtenay, de mon laboratoire Orient et Méditerranée au CNRS. Et puis moi, j'étais membre de la mission comme épigraphiste, c'est-à-dire donc chargé, comme vous l'avez très bien dit, avec d'autres, hein, nous sommes plusieurs, jeunes et vieux, d'étudier les inscriptions syriaques gravées, la plupart sont gravées sur des pierres. Alors en l'occurrence, c'était la Syrie du Nord, le massif calcaire, que les gens connaissent hélas par l'actualité, Idlib. Idlib, pour moi, c'est d'abord des visages, des figures. Évidemment, c'est le travail scientifique, mais ce travail scientifique, c'est fait avec des personnes, avec des visages. J'évoquerai appelons-le Hassan, par exemple, hein, je ne donne pas les noms, un grand gaillard dégingandé, d'1m85, qui nous accompagnait pour les supports techniques et matériels. Bon, on a travaillé avec lui la première année, puis quand on est revenu la deuxième année, il avait passé tout son hiver à parcourir les djibels et à trouver des inscriptions. Parce qu'il nous avait vu fonctionner, comment on faisait, hein, simplement sac au dos avec les appareils photo, puis on regardait, on se positionnait dans différentes orientations en fonction de la position du soleil, parce qu'évidemment, selon que le soleil frappe du côté est ou ouest ou nord ou sud, on voit pas les inscriptions, ou on les voit, etc. Et il nous en avait trouvé plein. Et c'est un ami qui nous a emmené un jour dans une famille dans une pauvre maison perdue sur les petites collines, au milieu des pierres, mais une maison en pierre avec des revêtements de terre battue. Et la petite fille, à la fin, quand on est reparti, on a bu le thé, on a mangé, on a partagé des pâtisseries, c'est extraordinaire, l'accueil de ces gens. La petite fille, qui devait avoir 9 ans à peu près, qui n'avait rien dit. Et alors, quand on est reparti, elle m'a tendu une pièce d'étoffe, qui est grande comme un grand mouchoir traditionnel, brodé. Un dessin d'enfant. Et au milieu, elle avait brodé un oiseau. Voilà. C'est ça Idlib pour moi. Et Idlib, c'est aussi l'accueil du directeur des antiquités de l'époque, qui nous a reçus chez lui, qui a tout fait, qui nous a facilité le travail, on a mangé, pareil, des pâtisseries, on a vu des choses extraordinaires. voilà, l'accueil d'Idlib. Et Idlib, pour moi, c'est les grands, les immenses champs d'oliviers, la récolte des olives, les usines d'huile d'olive, ça, qui alimentaient toute la Syrie, et même, je crois, il paraît qu'ils exportaient vers la Tunisie et l'Italie du Sud, tellement.
On est un petit peu en altitude.
Oui, on est un peu en altitude.
La terre est riche, ocre.
La terre n'est pas très riche, c'est du caillou, mais alors, sur la plaine, autour d'Idlib, effectivement, c'est une terre ocre, qui est d'ailleurs, dans les grands champs plats, c'est tellement riche qu'ils sont obligés de la mélanger avec du calcaire qui est broyé, qui est pris justement dans les djebels, les différents djebels. Ceux qui connaissent, c'est le djebel Al-Ala, le djebel Sem'an, djebel Barisha, voilà, c'est, par exemple.
Donc, alors les savants connaissent cette région comme le massif calcaire, un massif qui a été occupé à l'époque byzantine par un nombre assez impressionnant d'églises et de villes.
De villes, de bourgades, dont il reste des maisons, des églises, des baptistères, des hôtelleries et des monastères, évidemment. Alors le plus célèbre étant Der Sem'an, le monastère de Saint-Siméon, le stylite, avec sa colonne, et puis les églises construites, puisqu'il y a plusieurs églises construites autour pour le pèlerinage. Et d'ailleurs, j'ai eu le privilège de faire une mission comme épigraphiste en 2005, avec l'équipe de Jean-Pierre Sodini, qui est un grand savant, un des plus grands savants byzantinistes, où j'ai pu faire le recueil de toutes les inscriptions syriaques. Il y en a 17 en haut, une douzaine en bas dans le village, qui est l'ancien monastère où Saint-Siméon avait commencé par séjourner avant de monter sur la colline pour faire sa colonne. Et donc il y a une trentaine d'inscriptions là qui sont très très intéressantes. C'est émouvant parce que je vous parlais des visages d'aujourd'hui, mais on a l'impression qu'ils sont en continuité avec les visages d'hier. C'est ancien. Par exemple, donc Littmann avait fait une très très belle exploration dans le massif calcaire. Il a publié ça en 1934. C'est un très grand savant, hein. C'est très fiable ce qu'il a récolté. Bon, on en a trouvé d'autres, hein, après lui. Mais par exemple, moi je me souviens d'une inscription que je crois que nous ne l'avons pas retrouvée, celle-là, mais elle était très bien publiée, qui parle simplement d'un... Il y a une inscription comme ça au milieu du village, justement, d'Er Sem'an, comme on l'appelle, qui dit « Il y a eu un miracle ». Bon, je résume. « Il y a eu un miracle le 15 avril, une grande tempête qui a dispersé tous les arbres et les récoltes, mais elle s'est arrêtée instantanément ». Donc voilà, c'est tout simple, c'est la vie captée dans un village de Syrie du Nord avec toute l'activité agricole, parce que c'était fondamental, c'était ça la base de leur économie, de leur subsistance. Alors il n'y a plus d'arbres aujourd'hui, pratiquement plus d'arbres aujourd'hui à Der Sem'an et à Kalahat Sem'an, qui a beaucoup souffert aussi des événements. Ça a été horrible. D'ailleurs, l'équipe de Jean-Pierre Sodini a beaucoup souffert parce que les uns ou les autres, tous ces clans imbéciles qui se tapaient dessus, ont vraiment détruit le matériel qui était soigneusement engrangé, les céramiques notamment.
Le matériel des archéologues, les dépôts.
Oui. Donc, on sait, le fameux géographe musulman, Yakout, qui vivait autour de 1200. Hein. Il cite des témoignages comme quoi, au XIe siècle, c'était une région qui était couverte d'arbres, très prospère et très verte. Comme chercheurs, nous faisons un peu le lien entre tous ces populations de villages et de bourgs, ces cultivateurs, ces moines, ermites, mais ces habitants de maisons dans lesquelles il y a des galeries. C'est très beau, vous savez, très bien organisé, avec des reliefs, c'est l'air très sobre, des corniches. Et puis, évidemment, de très belles sculptures.
Là, nous parlons de l'architecture de ces églises que nous pouvons voir encore aujourd'hui, dans l'état dans lequel on les verra peut-être à nouveau un jour.
Ah ben, j'espère. Il y en a quelques-unes qui ont été détruites, mais pas tellement. Je vous parlais tout à l'heure dans Hassan, notamment. Bon, voilà, il est musulman, mais c'est... oui, nous sommes vraiment dans une humanité profonde, une amitié excellente, et il avait à cœur de nous faire visiter ses églises, qui étaient son patrimoine, et ça... le lieu de ses familles, sa famille à lui, des familles amies. Voilà, c'est. J'espère que ça peut donner un peu de réconfort à ceux qui souffrent de voir la Syrie se détruire. C'est sûr qu'on découvre énormément de choses. Nous avons d'ailleurs eu à cœur de la mission de vraiment faire participer les gens avec qui on était, et puis de donner, de montrer en quoi. Leur patrimoine était aussi intéressant. Par exemple, on a eu la possibilité de réaliser des panneaux au musée d'Idlib. Je me souviens encore du panneau qu'on a bien confectionné à partir d'un système informatique très simple, mais avec de très belles photos, en donnant des tableaux des écritures comparées, où on montrait les rapports entre les écritures anciennes, ougaritiques, cananéennes, araméennes, et puis le syriaque qui est issu de l'araméen, puis l'arabe, la comparaison avec l'arabe, et puis avec les écritures latines.
Je voudrais revenir sur cette question effectivement de l'épigraphie, c'est-à-dire de resituer cette région donc du nord-ouest syrien, donc le massif calcaire. Vous avez parlé d'épigraphie syriaque, donc ce recueil d'inscriptions anciennes liées aux populations locales, à l'histoire de ces communautés, l'histoire des églises, et peut-être de le resituer dans un ensemble plus vaste, me semble-t-il, lié à la région, et une recherche épigraphique qui vous a mené quand même très loin. Nous sommes allés ensemble jusqu'en Inde. Alors là, je parle du Kerala, ces émissions que nous avons faites sur le Kerala syriaque. Voilà, resituez-nous un petit peu votre travail de recherche.
Alors, l'équipe travaille à ce qu'on appelle le RIS, le recueil des inscriptions syriaques, qui est une collection publiée par l'Académie des inscriptions des belles-lettres, collection dont je suis le directeur. Et Françoise Bricquel y participe, et il y a toute une équipe de jeunes maintenant qui travaillent beaucoup, qui prépare le recueil des inscriptions syriaques du Tour Abdin de Turquie, qui a déjà des contacts avec des savants turcs là-bas, et je suis très heureux de voir que cette équipe développe son travail. On peut citer Apsus, Absenus, le couvent autour de la colonne, là aussi d'un stylite. On peut parler de Hah avec de magnifiques bas-reliefs, etc. Et alors, pour la Syrie, avec l'équipe de Françoise et de Widad, et puis pour la Syrie, nous avons, par exemple, beaucoup travaillé à Kalblozé, à Darkita. Darkita, c'est une inscription qui est célèbre parmi les Syriacisans parce qu'elle parle explicitement de la Sainte Trinité. Donc on a des gens qui gravaient sur les murs de leur église ou sur les linteaux des moments importants de la vie religieuse et théologique. On a par exemple aussi à Bassoufan, là il faut être un peu acrobate parce que c'est situé, il faut monter sur une échelle, c'est un peu compliqué. Mais il y a une inscription qui est très importante dans un cartouche où on a le nom du constructeur et la date de construction du bâtiment, qui est d'ailleurs, qui est pas une église, qui est une ferme. Si je logeais là-dedans, je dirais que c'est un hôtel particulier, tellement c'est beau et bien sculpté. Bon.
Est-ce que ce sont des inscriptions qui sont datées pour la plupart?
Oui, par exemple, alors, Khirbet Hassan, c'est celle qui me vient à l'esprit tout de suite, datée 507, très précisément. Eh bien, là aussi, il y a quelque chose d'émouvant parce que on pourrait croire que, vous savez, c'est des inscriptions très pieuses. Mais non, on touche la vie. Khirbet Hassan a eu la chance de retrouver cette inscription qui était simplement couchée sur le bord du chemin. Alors on l'a mise évidemment soigneusement, on l'a emportée, c'est très lourd, on l'a emportée au musée, elle est en sécurité, Inch'Allah, si j'ose dire. Et alors, sur cette inscription, sur ce linteau, est inscrit le coût coût de l'Église. Et le coût, c'est quoi? Ce sont des heures d'ouvriers qui ont été payées. Et vous savez payées comment? Alors, il indique, je crois, des sommes d'argent. Je crois, bien incapable de faire la traduction en euros. Mais il indique en quantité de blé et de lentilles. Bon, alors, il donne pas à l'intôt, on peut pas faire des discours immenses, mais on peut penser que c'était à la fois pour nourrir les ouvriers, c'est fondamental, et ça faisait partie du coût de la construction, et aussi peut-être pour payer des gens en blé et en lentilles. Et puis alors, il met en plus des autres matériaux. Mais vous voyez, la préoccupation, c'était les lentilles et le blé. Pour moi, c'est très émouvant, ça, de toucher du doigt en 507, au tout début du 6e siècle, la réalisation de cette église qui, par ailleurs, est en ruine aujourd'hui, mais enfin qui a gardé ses murs jusqu'au plafond, pratiquement. Le plafond n'existe plus, mais...
Les inscriptions à l'un des rumeaux que vous découvrez nous informe ce que nous ne pouvons pas apprendre par l'archéologie et ce qui n'est pas dans les textes par définition. Donc c'est une autre source d'information.
Alors c'est une source d'information qui a été peut-être un peu sous-estimée et que l'on redécouvre comme source d'information historiographique et que l'on découvre évidemment comme significative de tout un monde syriaque qui est pareil, qui n'est pas assez connu. C'est assez surprenant si des gens me demandent, mais les inscriptions syriaques, il y en a où? Et je réponds, la première dont on a parlé, dans l'histoire, et par des savants, vous savez, c'est un jésuite qui a publié en 1636 la découverte de la stèle de Xi'an, c'est en Chine. Bon, une stèle qui est célèbre parce qu'elle est écrite en chinois et avec un long texte syriaque à côté. Bon, c'est pas tout à fait bilingue parce que c'est pas la traduction du chinois en syriaque, mais c'est les deux langues qui sont présentes sur la stèle et qui racontent la fondation du christianisme, une fondation officielle du christianisme à la fin du 7e siècle. Et puis, il y a des inscriptions qui sont... Alors, on va ailleurs, on va en Irak, dans le nord, dans le Kurdistan d'Irak, dans le nord. Joseph Simon Assemani, qui publie sa Bibliotheca Orientalis en 1728, il traduit la plupart des inscriptions de ce qu'on appelle Der Rabban Hormizd, qui est le lieu de par excellence de l'église chaldéenne maintenant, l'église de l'Orient, et où sont enterrés sur le à flanc de montagne, c'est superbe.
C'est dans la région du nord de l'Irak, la région du gouvernement kurde.
Voilà.
Voilà, à quelques kilomètres d'Erbil.
Et au-dessus du village d'Al-Kosh, donc où les patriarches sont enterrés. Alors, il y a de très longues inscriptions, voilà. Voilà, un autre type d'inscription qui
donc
qui
vous avez évoqué la Chine, nous avons évoqué l'Inde auparavant, oui. Nous évoquons maintenant l'Irak, c'est un voyage extraordinaire. Donc sur ces routes du commerce, les routes de la soie bien entendu, ce qui montre que le christianisme syriaque en fait a utilisé les moyens de communication de l'époque pour se répandre.
Les histoires sont différentes. Les histoires sont évidemment complexes et différentes parce que ce qui s'est passé en Irak, évidemment, c'est pas du tout ce qui s'est passé en Chine, ce qui s'est passé en Syrie, la Syrie du Nord qui nous occupe beaucoup parce que là, nous voulons publier maintenant ces inscriptions où on en a trouvé plus d'une centaine et sur, je crois, une cinquantaine de sites en tout. C'est le cœur du christianisme syriaque et de son expression. C'est-à-dire que c'est là où les gens parlaient, continuaient à parler l'araméen que l'on a appelé syriaque parce qu'il s'est développé littérairement autour de l'église d'Édesse, là où s'est produite la première traduction de la Bible au IIIe siècle et les premiers grands manuscrits à partir du Ve siècle, au tout début du Ve siècle. pour les grands manuscrits de la littérature chrétienne syriaque. Et puis, après, l'histoire est complexe. Notamment, on sait qu'en Inde, on l'avait rappelé lors de la rencontre avec Jiffy Mekatukulam, c'est parce que il y avait des relations entre l'Iran, notamment, avec une implantation de chrétiens de langue syriaque, une relation entre l'Iran et l'Inde. Donc, pour le nord de l'Irak, c'est encore différent puisque c'est l'expansion les missions des pères syriaques vers le centre, Bagdad, et c'est le cycle des siphons, évidemment.
Nous étions ce matin en compagnie d'Alain Desrumeau pour évoquer les inscriptions syriaques de Syrie du Nord. Cher Alain, je vous remercie d'être venu jusqu'à nous.
Merci à vous, Sébastien.
Je remercie pour la réalisation et la technique de cette émission Dany Journeau, Stéphane Touvenin et Claire Poinsignon. Nous retrouvons maintenant sur France Culture toujours le service protestant. Bon dimanche. Thank you.